Oscar Miloche, extrait des Contes et Fabliaux de la vieille Lituanie, Le journalier et le bonhomme mystère. Il était une fois un pauvre air de journalier qui, ayant femme et enfant à nourrir et ne trouvant pas de travail, tirait le diable par la queue en vivotant aux frais de la paroisse. Celle-ci finit par lui couper un beau matin jusqu'à l'ombre des vivres, et l'infortuné, ne sachant plus où donner de la tête, s'enfuit du galetas qui abritait sa famille et courut droit devant lui, sans un liard, sous sa vieille soutanelle de mouton, avec l'espoir de dépister la malchance ou de rencontrer la mort. À la lisière d'un bois, il aperçoit un petit vieux à la tête blanche, agenouillé sur la neige au bord de la route, et qui se signe à tour de bras devant une belle croix sculptée. Ôtant son bonnet, il se prosterne aux côtés du bonhomme et récite avec ferveur un pater et un ave. Vous venez de demander à Dieu, je gage, du pain pour vos enfants, ou le repos éternel pour vous-même, compagnon. » Un peu surpris, le journalier considère attentivement le vieillard et se sent tout de suite gagné par le sourire qui éclaire son petit visage rond et rouge, assez semblable à une vieille pomme d'api oubliée dans la neige. « Vous aviez l'air bien pressé tantôt, mais pressé comme le vent qui ne sait pas trop où il court. Suivez-moi donc, vous ne le regretterez pas. » Les voilà qui s'engagent tous les deux dans la forêt. Des fourrés de plus en plus touffus, et puis des bouleaux et des bouleaux, et des chênes et des chênes, et des pins et des sapins, à n'en plus finir, et un, deux, trois, quatre marécages lugubres traversés. Les voici enfin au pied d'une belle colline, devant un de ces sites qui parlent à l'âme d'un tas de choses dont elle se souvient et ne se souvient pas. Ils la gravissent et trouvent à son sommet une petite table de bois blanc toute vermoulue. « Vous allez me faire le plaisir d'emporter ce petit meuble que vous mettrez dans votre cuisine. Chaque fois que la marmaille aura faim, vous n'aurez qu'à dire « Petite table, le petit ventre est creux, pour la voir aussitôt pliée sous les bouillons gras et les roux, les gros poissons et les gélines, les goyères, les flans et les tartes, et une bonne bouteille d'hydromel de Lituanie ou de vin de France se montrera bien de temps en temps aussi, ajouta-t-il en enfonçant son coude d'un air réjoui et malin dans les côtes décharnées de son nouvel ami. Seulement, car voyez-vous, il y a toujours un coquin de mets pour vous empoisonner les meilleures choses d'ici-bas. Seulement, dis-je, ayez bien soin de rentrer chez vous par le plus court et sans vous arrêter nulle part. » Le journalier remercie le nabochenu et file comme une flèche avec la petite table sur l'épaule. Après une heure de marche, les ténèbres le surprennent en pleine forêt. Il avance quand même à tâtons, parvient à se dégager du bruissant labyrinthe et aperçoit une lumière au lointain. Il y court, c'est une auberge. La fatigue et la peur l'emportent sur la prudence. Il frappe, on lui ouvre. L'hôte et sa famille sont déjà à table. Il s'installe tout seul, tel un roi, dans un coin de la salle, et prononce la formule magique en imitant la voix et l'intonation drôlette du vieillard. « Petite table, le petit ventre est creux. » Un magnifique souper apparaît, tout fumant sur les vieilles planchettes dans de petits plats de porcelaine de Bohême, embellis de grappillons de sorbe et de champignonnets rouges, bleus et jaunes, merveilleusement peints. Du centre de la table émerge le goulot couronné de cire d'une puissante bouteille emprisonnée dans de la dentelle de dents par mesdames, aragne et poudre. L'hôte, l'hôtesse, le garçon, la maritorne, tous les témoins du culinaire miracle furent transportés d'admiration, au point d'en oublier le manger et le boire. Et, tandis qu'ils restaient là, bouche bée, en tournant leurs pouces, Monseigneur dévorait noblement, sans daigner leur accorder un regard. Quand son Altesse s'alla coucher, l'aubergiste et sa femme coururent bien vite chercher au grenier une petite table qui ressemblait à s'y méprendre à celle du voyageur, la mirent à son chevet et enfermèrent sous les verrous, dans un réduit obscur, le précieux meuble magique. Le lendemain, lorsque le journalier, après avoir annoncé avec fierté aux siens sa mirobolante acquisition, ordonna à la fée de bois de montrer ses talents, celle-ci demeura sourde à ses injonctions comme à ses prières, et le pauvre homme eut à souffrir cruellement de sa propre déception ainsi que celle de toute la maisonnée, laquelle se répandit contre lui en quolibets et en remontrances qui le laissèrent là tout penaud. Le pauvre diable, à qui cette aventure fit perdre le peu qui lui restait de courage, ne trouva rien de mieux pour calmer son chagrin que de reprendre la route de l'exil. Il y avait à peine fait 20 pas que le petit vieux de l'avant-veille l'interpellait malicieusement. « Ah ah ! Point n'est besoin d'être sorcier pour s'apercevoir que tout va bien. Déjà on vous a une toute autre mine. Qui donc a dit que c'est le petit ventre qui gouverne le monde ? Voilà, ma foi, ce qui s'appelle parler de cordes dans la maison d'un pendu et d'ortolan au chevet d'un famélique. Et le pauvre est de compter par le menu sa mésaventure. Ne vous en faites pas. Allez, on va tâcher de réparer le mal. Retournons à notre colline. » Une surprise y attendait le journalier, car il y fut accueilli par un bêlement qui ne ressemblait en aucune manière au craquement d'un meuble, et provenait bel et bien d'une petite brebis qui ressemblait fort à une grosse boule de laine. « Vous n'aurez qu'à dire à la jeune personne que voilà. Petite brebis, secoue-toi. » Il en tombera aussitôt toute une pluie de beaux angelots d'or à l'effigie de tous les rois de la chrétienté. Seulement, prenez bien garde de ne vous arrêter nulle part en chemin. Le journalier part comme un trait, mais tous les événements de son expédition précédente se représentent de point en point. Surpris par la nuit, le poltron se réfugie dans la même auberge, y fait un nouveau miracle et rentre à la maison avec une brebis qui, n'étant pas la sienne, ne nourrit pas un traître liard dans sa toison. D'où, comme bien l'on pense, nouvelles imprécations de la famille et grincements de dents, comme le monde n'en avait point ouï depuis la destruction de Sodome et de Gomorre. La victime du méchant aubergiste quitte pour la 3e fois sa maison, mais en jurant ses grands dieux qu'on ne l'y prendra plus et qu'il ne s'en remettra dorénavant pour sa délivrance qu'à Dame Mort et à sa faux, uniques objets de son désir. Et là, depuis qu'on a la bourse bien garnie, on fait fi des témoins de son malheur, n'est-il pas vrai? « Ah, c'est encore vous !» s'écria l'infortuné en reconnaissant le vieillard. « Ta, 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 il n'y a pas de retournons à la colline. Vous vous êtes moqué de moi 2 fois. Cela suffit. » « Eh bien, cette fois-ci, c'est moi qui vous recommande de vous arrêter pour la nuit chez votre brigand aubergiste. Quand je vous aurai montré le 3e présent que je me propose de vous faire, vous comprendrez bien pourquoi. Allons, quelques pas encore, nous voici au sommet. » Et le petit vieux va chercher un sac caché dans un buisson, l'ouvre, en tire un formidable rondin et remet le tout à notre vagabond ébahi. quand vous arriverez à votre damnée auberge. Vous soufflerez au gourdin enfermé dans son étui de toile. « Rondin, sortez, s'il vous plaît. » Et quand le bâton s'en sera donné à cœur joie, de quoi, je ne vous le dis pas, vous le verrez vous-même, vous n'aurez qu'à lui dire de rentrer dans le sac. Allez, mon brave, et que Dieu vous bénisse. » Notre piteux héros reprend pour la troisième fois le chemin de l'auberge, et il n'a pas plutôt repris sa place accoutumée dans le coin au miracle qu'il ouvre le sac avec l'espoir d'en voir sortir le mystérieux bâton métamorphosé en andouille ou boudin. Mais vive fut sa surprise et plus violente encore le saisissement des spectateurs. Lorsque la courroie déliée et prononcée la formule magique « Rondin, sortez, s'il vous plaît », le gourdin bondit hors de sa prison en décrivant de vertigineux moulinets et s'abattit « Pan, pan, et en veux-tu, en voilà, et de bas en haut, et de haut en bas, et en droite ligne, et de biais, et en façon de main, et en façon de pied, et en coup de corne de bique, et en pluie et grêle de trique, et par derrière, et par devant, tonnerre, éclair et grand vent sur la tête, les épaules, le derrière de l'hôte, de l'hôtesse, du garçon, de la maritorne, du coupable et de l'innocent. Grâce, grâce sur les fustigés, les flagellés, les moulus, les éclopés. Grâce, grâce. Et la grâce illuminative continuait de les aveugler d'une splendeur de 36 chandelles. Assez, assez, on vous rendra et votre guérison, et votre guéridon, et votre mouton. Mais par pitié, arrêtez le bâton. Rondin. Dans le sac, ordonna le journalier bafoué, dont les yeux venaient de se dessiller, mais qui, dans son bon cœur, trouvait le châtiment un tantet sévère. Le gourdin entra dans son sac, on apporta la table et la brebis enchantée, et le mendiant de la veille, devenu plus riche que tous les rois de Lydie ensemble, retourna triomphalement à ses pouilleux et grelottant pénates. En le voyant apparaître une fois de plus avec un guéridon et une brebis, son acariâtre épouse, instruite par les expériences précédentes, fit les hauts cris, et il s'en fallut de peu qu'elle ne lui jetât à la tête et le gigot qui restait du premier animal sacrifié et l'unique pied encore sauf de la fausse table magique qui flambait dans la cheminée. « Ah, satané vaurien, godiche, bec cornu, coxigru de malheur. Tu vas voir ça. » Papa, glapissait de leur côté les enfançons, prends garde, petit papa. Maman a dit qu'elle t'en foutrait, et sur le cul, et sur la gueule. Ni sur l'un, ni sur l'autre, se contenta de répondre noblement le petit papa. Vous tous ici présents, ouvrez bien grand l'œil et l'oreille. Une, deux, trois. Rondin, sortez du sac. Je laisse à de plus grands que moi. À qui donc, bonté du ciel? Mais à Durand Alighieri, au grand Will, au divin Wolfgang de Francfort, à Villon, à tous mes maîtres chéris. Le soin de décrire l'inverse de boulot qui creva alors et bondit sur la malheureuse, tout essoufflée et endolorie, sous le tablier et la cotte ramenée sur sa tête. Rondin dans le sac. La tempête s'apaise. Femme et enfant s'essuient les yeux, et le magique papa aussi, car ce spectacle l'avait vivement ému. Et maintenant, Petiot, et toi, la mère, silence, et regardez-moi ça. Petite table, le petit ventre est creux. Ô merveille! Enfoncez les Lucullus, les Alcibiades et les Amphitryons. Et au dessert, alors que disparaissait avec la dernière gorgée d'Hippocrase l'ultime perle néronienne fondue dans du vinaigre d'Égypte, Monseigneur, le journalier fit signe à la brebis d'approcher. Mais il lui fallut renouveler son invite, car la grassouillette n'y voyait pas très clair rapport à la laine qui recouvrait ses beaux et bons yeux. « Approchez, mamie, approchez. Et maintenant, petite brebis, une, deux, l'agnelle de Pâques, plus blanche que pâquerette, n'attendit pas la fin de la formule. Elle se secoua, et des centaines d'agnelles d'or coulèrent sur le plancher en ruisselets, cascades et torrents de musique qui eussent charmé l'oreille de l'autre Wolfgang, du magicien omniscient et immortel de Salzbourg.